question de fric.
Question de fric.
Faut-il abolir l'héritage ?
Comment gagner de l'argent sans rien faire ?
Tu trouves pas que la bouffe, c'est meilleur quand c'est gratuit ?
Il paraît que ça marche pas, la thérapie, quand tu payes pas.
Tu crois que l'argent fait le bonheur ?
Non, mais il y contribue.
Quelle est la différence entre un rouble et un dollar ?
Un dollar ! Mais d'où vient l'argent ? Tu sais, toi ?
Et si l'argent ne valait plus rien ? Question de fric libère la parole sur le tabou de l'argent. Bonjour Albert Moukeber.
Bonjour.
Donc tu es chercheur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Et tu es aussi auteur du livre « Votre cerveau vous joue des tours » que j'ai d'ailleurs lu et que j'ai trouvé vraiment très bien, sur les biais cognitifs notamment. En fait, si je t'ai contacté, c'est parce qu'on a une amie en commun qui m'a parlé de toi et elle m'a raconté une petite anecdote. Elle m'a dit que tu avais un patient, puisque tu as des patients le vendredi, en psychologie, qui t'avait payé en Twix. Est-ce que tu peux me parler de cette histoire-là ?
Oui, en fait, au cabinet, les gens payent ce qu'ils veulent. J'ai pas de tarif fixe, ce qui paraît surprenant, mais pour moi, ça fait tellement longtemps que je fonctionne. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc des fois, j'ai pas conscience de combien c'est absurde, sauf quand je propose. Genre quand les personnes me demandent combien est-ce qu'on vous doit et je leur dis ce que vous voulez. C'est vrai que ça fait tout le temps un moment un peu absurde, genre comment ? Et effectivement, il y a des personnes qui ne payent pas s'ils ne peuvent pas payer. Il y a des personnes qui payent assez cher s'ils peuvent payer. C'est eux qui estiment ça. Et des fois, il y a des personnes qui me disent « on se sent mal, on ne sait pas quoi faire, on veut vous payer. » Mais effectivement, ça nous arrange parce qu'on n'a pas vraiment les moyens. Et des fois, certains patients me payent en Twix ou en Kinder. J'ai des patients, des fois, qui sont chefs, par exemple, qui cuisinent des trucs, qui me ramènent. Parce que les personnes qui viennent me voir voient souvent que je suis soit en train de boire du thé, soit en train de grignoter des trucs. Du coup, ils ont déduit que j'aime bien ça, donc effectivement, ça m'est déjà arrivé qu'on me ramène un sac des Twix mini ou des Kinder Surprise ou des Chocobons. Ça aussi, c'est assez commun.
Donc tu pratiques le prix libre, quoi. Ça t'est venu comment, en fait, quand t'as monté ton activité ? Tu t'es posé la question ? Enfin, comment c'est venu ?
En fait, donc j'ai grandi au Liban, et quand j'étais au Liban, j'étais secouriste à la Croix-Rouge. Et au Liban, la Croix-Rouge, c'est un peu l'équivalent des pompiers ici. C'est l'ambulance, quoi. Et on est tous bénévoles, on fait ça le soir. On fait des permanences de 18h à 6h du matin le lendemain. Et avant, j'étais scout, donc il y a toujours eu une sorte de partie de bénévolat un peu dans ma vie. Et quand je me suis mis en libéral, un truc qu'on entend très souvent, c'est que c'est très cher, une thérapie. Je ne sais pas si c'est très cher, mais en tout cas, c'est un prix qu'il faut payer régulièrement, je dirais une fois par semaine, des trucs comme ça. Et en face, je militais pour le remboursement par la sécu des séances de psychothérapie, parce que ce n'est pas remboursé par la sécu. Il y a certaines mutuelles qui remboursent genre 5 séances, 10 séances, mais c'est pas remboursé, alors que beaucoup d'autres choses le sont. Et je me suis dit, vu que je fais des consultes un jour par semaine, parce que je fais d'autres activités à côté, et que c'est pas seulement de ça que je vis, où j'ai l'opportunité de pouvoir gagner ma vie sur mes autres activités, je me suis dit, bah, vu que c'est pas remboursé, pourquoi est-ce qu'on fait, je fais pas genre une sorte de grille adaptative moi-même ? Et la blague un peu que je fais, je dis aux personnes qui viennent me voir, genre si vous allez mal et que vous n'avez pas vraiment de sous, et que je vous demande de me payer cher, il y a moins de chances que vous allez mieux, et après vous allez penser que moi je ne suis pas bon. Et du coup, au moins, j'essaye de vous aider dans la dimension financière, en plus de la dimension psychologique. Comme ça, si je ne sais pas, je suis nul, vous n'avez pas dépensé tous vos sous, en plus que je sois nul. Donc, c'est une sorte de boutade, mais à la base, c'est juste parce que je considère que c'est absurde qu'une personne qui ne peut pas payer n'ait pas accès aux soins psychologiques. Si tu n'as pas le sou, tu ne peux pas faire de thérapie. Sauf si tu vas dans des CMP, et là, c'est des attentes infiniment plus longues. Donc, j'ai décidé une sorte de faire mon système à moi. En général, les gens payent. Hein. C'est-à-dire, les gens vont s'imaginer « Ah, mais Albert, si tu fais ça, personne ne va payer. » En fait, pas du tout. Les gens pensent que si on fait quelque chose de gratuit, bah, les gens vont en abuser. Et maintenant, ça fait, je sais pas, 8-9 ans que je fais ça, peut-être. Mais c'est hyper rare que je sente que quelqu'un, en fait, peut se payer sa thérapie et ne le fait pas. En général, les personnes qui payent en Twix ou qui ne payent pas, etc., je suis leur psy, donc je sais un peu comment ça fonctionne, leur vie, et ils peuvent vraiment pas le faire. Je me suis jamais senti, genre, qu'ils abusent de cette confiance. Même des fois, il y a des personnes, je sais, qui sont en train de payer un peu plus que ce qu'ils pourraient se permettre.
Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un sujet. Je t'avais entendu parler de revenu universel dans une interview. Et là, quand tu me dis, voilà, si en fait je fais un prix libre, les gens ne vont pas te payer. Ça me fait penser au truc de dire, si les gens ont de l'argent sans contrepartie, plus personne ne va rien foutre. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Je pense que c'est une pensée très cynique de l'homme. Et limite, c'est pas grave, genre on a le droit d'être cynique. Mais surtout, c'est pas du tout étayé par les preuves. C'est-à-dire, quand on regarde de plus près le comportement humain, il n'y a rien qui pousse à ce qu'on croit que si on donne aux gens de l'argent, ils ne vont plus rien faire. C'est pas vrai. C'est un peu comme le mythe de la cistana, que si on aide les gens, en fait, ils deviennent flemmards. Alors que ce soit l'aide à l'emploi, l'aide au chômage, etc. On sait qu'au contraire, c'est aider les gens qui les poussent à s'en sortir. Alors que beaucoup de fois, la narrative dominante, c'est... Ah mais la cistana, c'est ça qui tue la France, ça pousse les gens au chôme dû à ne rien faire. Bah oui, si l'État te paye 800 euros par mois, pourquoi est-ce que tu vas aller trouver du travail? Et en fait, pas du tout. On sait très bien qu'il y a une étude qui est sortie là, il n'y a même pas 2 semaines, qui est assez claire sur, au contraire, une des manières les plus efficaces pour aider quelqu'un dans la difficulté de s'en sortir, c'est de lui donner un coup de main. Et le revenu universel de base, pour moi, c'est presque même une évidence. Notre système de fonctionnement de la société n'est pas... Je ne sais pas comment on dit en français, scalable. On ne peut pas l'agrandir de masse de manière infinie parce qu'il est conditionné par les limites de production, d'offres et de demandes, etc., etc. Et c'est vraiment une vision absurde de vouloir que pour être genre un membre actif d'une société, il faut absolument avoir un métier. Peut-être pas un métier, mais un emploi. Et que la société humaine doit être drivée par la notion de l'emploi. L'emploi est quelque chose qui finit, genre on appelle ça un zero-sum game, un jeu à somme nulle, c'est-à-dire s'il y a 10 emplois, on ne peut pas se les partager sur 1000 personnes, il y a 10 personnes qui vont les prendre et après c'est fini. Et c'est absurde de vouloir faire porter la responsabilité à la personne qui n'en a pas un, que c'est de sa faute, alors que peut-être c'est un problème d'offre et de demande. C'est comme si, imagine, il y a un théâtre, et il faut qu'on achète des billets pour une pièce, et il y a 100 places, et on est 200 personnes, et donc il y a 100 personnes qui vont acheter leur place. Et sans autres, c'est impossible d'avoir une place. Il n'y a plus de place. Et après, on les blâme à eux, au lieu de se dire bah, « le théâtre est trop petit ». C'est absurde de mettre la faute sur l'individu, de culpabiliser une personne parce qu'elle n'a pas de boulot, ou etc. Si, par exemple, il n'y a pas de boulot. Mais sans blâmer du tout le système, sans parler de la dynamique groupale, de ce truc. Moi, je m'intéresse beaucoup à pourquoi les choses fonctionnent, comment elles fonctionnent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on délibère de manière groupale avec la démocratie? Pourquoi est-ce que nos échanges, on les fait avec de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on bosse 5 jours par semaine, pas 6 ou 4 ou 7? Pourquoi est-ce qu'une semaine, c'est 7 jours et pas 9 ou 12? Pourquoi est-ce qu'on bosse de 9h à 17h? Donc j'aime bien questionner ce qu'on appelle ça les cadres théoriques, les raisons pour lesquelles quelque chose est comme ça. Et d'un point de vue de cadre théorique, de fonctionnement du système, le marché et notre relation à l'argent n'est pas du tout optimale.
Tu gagnes combien, toi, par mois? Alors, en brut ou en net?
C'est différent.
Il y a une croyance actuelle qui est que, par exemple, l'argent vient du travail, alors qu'en fait, pas du tout. L'argent, c'est une création de l'esprit. Si l'être humain disparaît parce qu'on n'a pas réussi à gérer la crise climatique, admettons, l'argent disparaît aussi. Enfin, pas l'argent, pas le métal, mais la notion d'argent, la monnaie. Et il y a un truc que j'ai réalisé il y a quelques années, c'est qu'effectivement l'argent ne vient pas du travail, mais est une création, est un moyen en fait, c'est un outil social qui nous permet de faire des échanges et de se faire confiance. C'est-à-dire que si je fais un travail ou si je te donne une baguette de pain, bah, j'ai envie d'avoir quelque chose en retour pour moi ensuite garder la valeur et pouvoir me payer autre chose. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement on a une construction mentale qui est liée à l'argent. Et pour moi, il y a un biais aujourd'hui dans la société, c'est le fait que l'argent est difficile à gagner et il est rare. Alors qu'en fait, puisque c'est une création de l'esprit, il est tout sauf rare. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, quand on dit argent, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au cours du temps. À la base, l'argent, c'est juste plus pratique. En gros, si on fait du troc, j'ai une vache, tu as des poules, j'ai envie de manger du poulet, tu as envie de manger de la viande. Il faut que soit je tue ma vache, que je la découpe et que je l'emmène avec moi pour l'échanger pour du poulet ou pour des haricots ou pour faire un mur pour ma maison. Et c'est pas pratique de se promener en portant sur son dos tous les trucs pour pouvoir échanger. Donc on s'est dit, on va faire une sorte de truc commun et on va décider qu'il a de la valeur. Parce qu'une des fonctionnalités des humains qui nous différencie un peu des animaux, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous différencient des animaux, mais une des fonctionnalités qu'on pense différencie des animaux, c'est qu'on est capable de se fédérer autour de choses qui n'existent pas. Que ce soit l'argent, ou les pays, la France, ou les équipes de foot, ou le concept en tout cas d'équipe de foot, où on va tous décider de collaborer pour aller défendre notre nation, ou notre famille, etc. Et l'argent fait partie de ces choses. Il y a un philosophe qui disait « le réel, c'est ce qui reste quand on n'y croit plus ». Je trouve ça assez drôle. Et par exemple, l'argent ne passe pas ce test. Si on n'y croit plus, ça disparaît. Mais la notion de l'utilité de l'argent s'est transformée de cette notion de « c'est juste plus pratique » à « c'est devenu un but en soi ». La valeur a été déplacée de « l'argent peut remplacer quelque chose pour que on ne se trimballe pas tous avec des pierres ou je ne sais pas quelque chose qu'on a ». Ah, c'est juste ce truc qui a une valeur et on est tous d'accord que ça a cette valeur. Quand, en grande partie, donc ça s'est transformé plein de fois, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'humanité, mais la transformation qui nous intéresse, c'est avec la révolution industrielle et l'invention de l'emploi. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a une différence entre un métier et un emploi. Avant la révolution industrielle, ou 17e, 18e siècle, il n'y avait pas de taf, ça n'existait pas, la notion de boulot. Il n'y a pas de fiche de paie, tu ne vas pas chez ton patron, tu ne vas pas... Genre, sous l'Empire romain, les gens n'allaient pas au taf le matin et après ils revenaient, ni même sous Louis XIV, ou genre même beaucoup plus récemment, ça n'existait pas cette notion. C'était, tu as un métier, par exemple tu es agriculteur, et après on prend tes trucs et tu dois verser la dot ou des choses comme ça. Mais il n'y avait pas cette notion de, il y a quelqu'un qui a un business, et tu vas, tu postules, tu présentes ton CV, tu vas tous les jours. Et quand on a eu cette transformation de, chacun fait ce qu'il sait faire, et l'argent, c'est quelque chose qui circule, etc. Tu vas faire quelque chose de particulier tous les jours et on te donne un salaire. On revient à ce qu'on disait avant, c'est peut-être plus la notion de boulot qui est rare et qui se transpose sur l'argent que l'argent en tant que tel. Après, on ne peut pas tout simplifier en disant que parce que c'est une construction mentale, il y a autant qu'on veut. Parce que c'est une construction mentale, c'est une construction mentale commune. Donc si moi, je décide que je suis ultra riche, il faut que toi, tu acceptes que je sois ultra riche. Et c'est là où la rareté rentre en jeu. C'est dans l'interaction entre comment est-ce qu'on va décider, combien est-ce qu'il y a de ce truc où on a décidé de déplacer la notion de valeur.
Je voudrais qu'on parle maintenant un peu d'économie comportementale. Tu as notamment une histoire qui parle de pop-corn, que j'ai trouvé assez parlante. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors déjà, l'économie comportementale, donc c'est l'étude des comportements humains dans des situations de prise de décision économique, donc quand l'argent est un peu en jeu. Et donc, pendant longtemps, on pensait que l'homme était ce qu'on appelle un homo economicus, un décideur rationnel, c'est-à-dire on pèse les pour et les contre et on voit qu'est-ce qui est mieux pour nous et on le choisit. Et après, un chercheur qui s'appelle Herbert Simon, dans les années 50, 60, je ne sais plus, il a dit non, en fait, on n'est pas vraiment décideur rationnel, on a ce qu'on appelle une rationalité limitée, bounded rationality, et qu'on décide un peu à la louche, on n'est pas très très bon. Et puis dans les années 70, Amos Tversky et Daniel Kahneman, donc ceux qui ont un peu créé le domaine de l'économie comportementale, ils ont dit non, on est même des décideurs irrationnels, on ne décide pas du tout de manière rationnelle, et on évalue ça un peu à la louche, ils ont appelé ça des heuristiques. Et du coup, le pop-corn, ça montre un peu comment on décide, un peu comme ça, de manière... Donc, dans le cas du pop-corn, on appelle ça un biais de cadrage. Comment est-ce qu'on cadre une information, influence comment on prend une décision. Et donc, l'expérience, c'est on va prendre deux pop-corn de tailles différentes. Et le pop-corn qui est le plus petit, on va le vendre, par exemple, à 3 euros. Et le pop-corn qui est le plus grand, on va le vendre à 7 euros. On va mettre ça dans un cinéma et on va voir que la majorité des gens achètent le popcorn à 3 euros. Et quand on leur demande pourquoi vous n'êtes pas en train d'acheter le popcorn à 7 euros, ils disent que du popcorn à 7 euros, c'est très cher et que c'est un peu de l'arnaque. Donc ça, c'est la première semaine. Donc la majorité des gens achètent le popcorn à 3 euros. La semaine d'après, on ne touche pas à la taille du popcorn à 3 euros, on ne touche pas à la taille du popcorn à 7 euros. Par contre, on va introduire une sorte de popcorn moyen à 6,50. Donc on va changer comment l'information est cadrée. Le popcorn à 3 euros devient le petit, le moyen et le grand. Et ce qu'on remarque, c'est que la majorité des gens vont commencer à acheter le popcorn à 7 euros. Le petit popcorn maintenant est perçu comme le petit popcorn, qu'il est trop petit et que genre, c'est un peu pour les nuls, les nazes. Le popcorn moyen est à 6,50. Autant payer 50 centimes en plus et avoir le grand. Donc on voit un déplacement à 7 euros, là il n'y a plus 7 euros, c'est de l'arnaque. Comment on a cadré l'information, influence, comment on va prendre notre décision. Et c'est quelque chose d'assez commun, qui est assez utilisé, et des fois on doit même faire des lois pour protéger le consommateur de ce genre de biais. Par exemple, maintenant, il y a quelques années, tout le monde peut voir au supermarché que sous les prix, il y a maintenant le prix au kilo. Et ça, ça n'existait pas avant, et ça c'est aussi pour aider le consommateur à avoir plus de chances de ne pas tomber dans ces pièges qui sont dus à cette rationalité limitée, ou en tout cas notre irrationalité prédictible. Parce qu'il y avait des marques, par exemple, qui faisaient format familial, et le format familial était plus cher au kilo que le format pas familial. Sauf que nous, on calcule pas tout en permanence, je fais pas des règles de 3 en rentrant dans le supermarché, je vois le truc format familial, je me dis cool et je l'achète. Et donc, pour protéger un peu le consommateur, maintenant, l'opération est déjà calculée et tu peux regarder, voir, ah bah ça c'est 13 euros par kilo et ça c'est 12, donc je vais acheter ça indépendamment de la taille finale. On a aussi par exemple les biais d'ancrage. Comment est-ce qu'on ancre une information, donc le prix initial pour quelque chose. Par exemple, il y a plein de magasins, je ne sais pas s'ils font encore ça, qui mettent genre un prix, 20% de solde et un prix inférieur, alors que le prix soldé, c'est le prix du truc, c'est juste pour donner une illusion. Donc imagine, je veux te vendre ce micro et je te mets 100 euros, 20% de réduction et maintenant à 80 euros, alors que le truc de base, il coûte 80 euros. J'ai juste inventé une sorte de... C'est plus cher et c'est descendu pour donner une sorte d'illusion de bonne affaire. Et c'est vraiment des trucs de genre le marketing, ils avaient découvert ça intuitivement il y a très très longtemps.
On ferait quoi si on n'avait plus besoin de gagner notre vie ?
Quand tu as trois gammes de prix, donc tu as le bas de gamme, moyen gamme et haut de gamme, tu vas avoir tendance à te mettre au milieu. Parce que tu te dis haut de gamme, c'est un peu trop cher. Et en fait, si tu introduis un produit luxe, là tu vas avoir beaucoup de gens qui vont prendre le luxe parce que c'est luxe. Pas forcément parce que c'est largement meilleure qualité. C'est pas parce que c'est 10 fois plus cher que c'est 10 fois meilleure qualité.
Bah, le rose gold de Apple. C'est l'exemple parfait. Genre, il y avait toujours eu trois couleurs et puis ils ont introduit le rose gold. En gros, c'est juste une couleur en plus. Hein. Mais ils ont appelé ça rose gold. Et bim, ça a donné cette image de luxe. Et puis, il y a d'autres leviers psychologiques dans le luxe. Par exemple, les biais de la dissonance cognitive. Genre, c'est une théorie, c'est pas un biais. Mais que si je paye quelque chose de très très cher, ça va déplacer la responsabilité de l'efficacité des trucs sur le consommateur. Si j'ai payé, je sais pas, un sac 5000 balles, c'est sûr qu'il est génial. Parce que s'il n'est pas génial, je suis un pigeon, quoi. Je suis plus gros imbécile. Donc, ça va déplacer la responsabilité de l'efficacité du sac sur moi. Et je vais me dire, bah oui, c'est génial, c'est fait à la main, c'est des artisans, machin. Alors qu'au final, c'est un sac, quoi. Une grande partie du marché de luxe est basée sur ce principe de je vais faire payer très très cher pour que la personne, elle fasse le travail de se convaincre que ce truc est vraiment génial.
Dans ton livre, justement, il y a une citation là qui me vient à l'esprit qui dit qu'il est plus facile de berner quelqu'un que d'accepter qu'on s'est fait berner. Ouais. Ça revient à ça.
Oui, c'est... En fait, accepter qu'on s'est fait berner, ça implique une sorte d'erreur, de je me suis fait avoir, etc. C'est infiniment plus facile soit de berner quelqu'un, soit même de le pousser à prendre la décision et de se convaincre qu'il a fait une très très bonne décision. C'est un peu comme le principe de si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, donne-lui l'impression qu'il a pris la décision lui-même. Est-ce que j'attribue mon action à moi-même ou à quelqu'un d'autre ? Et quand on sent que l'autre nous a coercé un peu à faire quelque chose, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas se sentir obligé, quoi.
Sur ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'on n'aime pas être contraint de faire des choses, il y a cette notion de liberté, et donc aujourd'hui, je trouve ça très étonnant la façon dont on pense la liberté, parce que on va dire, par exemple, la liberté de choisir son emploi, alors qu'en fait, on n'est pas du tout libre, puisqu'on est contraint par un système qui nous propose des emplois. Donc, au contraire, on prive. Et je vois beaucoup ça, en fait, et ça me perturbe pas mal, le fait qu'on exprime souvent des libertés, la liberté, par exemple, d'avoir de la propriété, alors qu'en fait, quand tu détiens une propriété et que tu as un locataire, bah, tu prives au locataire sa liberté de pouvoir vivre dedans sans frais supplémentaires à quelqu'un qui est juste à son nom sur un titre de propriété.
En fait, le problème dans ce raisonnement, je pense dans les deux cas, on appelle ça l'erreur de la pensée binaire, c'est de croire que la liberté, c'est un peu comme un interrupteur de lumière on ou off, alors que la liberté, c'est plus un peu comme le volume d'une autoradio. On appelle ça une variable dimensionnelle et non catégorielle. La variable catégorielle, c'est genre, tu es soit dehors, soit dedans. la variable dimensionnelle, c'est un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas, il n'y a pas de rouge, de vert, de bleu, c'est, tu traverses le spectre de lumière petit à petit. Et la liberté est un peu comme ça, c'est-à-dire on peut être libre à 10%, à 20%, on a des marges de manœuvre. Mais c'est vrai que le récit, encore une fois, qu'on se raconte aujourd'hui, c'est que l'onus, le poids de la liberté, est entièrement chez l'individu. Et c'est pas vrai, effectivement, on a des degrés de liberté selon ce qu'on fait. Par exemple, sur le choix de l'emploi, on a un degré de liberté très réduit qu'on décide souvent, genre après le bac. Et c'est vrai que si, je sais pas, j'ai grandi au Liban, on n'a pas un programme spatial au Liban. Du coup, la liberté d'un Libanais de décider de devenir astronaute est infiniment, quasiment nulle, parce qu'il n'y a pas ça. Donc, tu ne peux pas devenir un astronaute s'il n'y a pas ni un programme de spatial, ni une fac qui propose de devenir astronaute. Et du coup, tu as la liberté de choisir, je ne sais pas, entre médecin ou architecte, mais même là, ta liberté est conditionnée aussi par où tu as grandi, le métier de ton père et le métier de ta mère, et de ton oncle favori ou de ta tante, ou d'un mec que tu regardes à la télé, etc. etc. Donc, c'est plus des marges de manœuvre que de liberté, mais effectivement, il y a une sorte de récit qui peut des fois être pervers, d'invisibiliser la liberté possible du système et de mettre toute la responsabilité sur l'individu. Que genre, si tu fais pas quelque chose, c'est de ta responsabilité. Alors que c'est pas vrai. Donc, j'en parle un peu dans le livre, ça s'appelle le locus de contrôle. On a une sorte de continuum, donc à nouveau, de ce qu'on appelle le locus de contrôle interne à un locus de contrôle externe. Le locus de contrôle interne, c'est toutes les choses que je peux contrôler, donc qui sont dans ma marge de manœuvre, dans cette liberté conditionnée, et le locus de contrôle externe, c'est tout ce que je ne peux pas contrôler. Et donc, même si j'ai envie d'avoir ce truc, c'est pas possible, parce qu'il n'est pas mis à disposition par les fonctionnements systémiques de notre société. Et c'est tout le temps important d'essayer de voir où est le curseur sur ce que j'essaye de faire, et d'évaluer les résultats de mes comportements, de mes prises de décision, etc., basés sur cette, en gardant en tête cette liberté conditionnée et de ne pas tomber dans un excès de se dire « si tu le veux, tu le peux », qui est un récit, encore une fois, assez récent et un peu bullshit, ou « tu ne peux rien, de toute façon, on se fait tous écraser », qui développe un peu ce qu'on appelle de l'impuissance acquise, où on sent que de toute façon, on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas de liberté dans le système et qu'on a juste une illusion de liberté. C'est pas vrai, on peut faire des choses, mais c'est pas vrai non plus qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Genre, je peux le vouloir et ne jamais y arriver. Mais aussi, si je ne fais rien, je ne vais jamais y arriver non plus.
C'est le genre de sujet d'ailleurs que tu vulgarises ou enfin, que tu essaies de traiter au niveau de Chiasma. Tu en as un peu vite fait parler, peut-être que tu veux parler un peu de ça.
Alors Chiasma, c'est un collectif que j'ai créé avec des potes chercheurs où on essaye de promouvoir ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Donc comment est-ce qu'on forme des opinions, comment est-ce qu'on change d'avis, comment est-ce qu'on conçoit les choses. Et donc on organise des événements une fois chaque 2-3 mois, on est un peu flemmard, à Belleville, gratuit, où on fait une sorte de mini-conférence où on popularise donc une idée. Et le but, c'est d'essayer d'expliquer des choses de manière accessible sans que ça soit simpliste, de manière complexe sans que ça soit compliqué. Donc c'est à nous de pouvoir expliquer des choses complexes, mais de manière cohérente et compréhensible. Et après, on organise des débats. Le but des débats de Chiasma, c'est pas d'avoir raison, mais c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on aurait une certaine opinion. Donc on pourrait faire, l'argent est une invention inutile. Et le but, c'est pas de dire oui, c'est inutile ou non, c'est pas inutile, mais de comprendre si quelqu'un croit que c'est inutile, quels sont ses arguments sains et quels sont ses arguments un peu fallacieux, donc qui sont basés sur des erreurs de raisonnement, sur des outils rhétoriques. Et si on pense que non, l'argent, au contraire, c'est quelque chose qui est très important pour le fonctionnement de la société, quels sont les arguments qui détaillent ça? Et le but, c'est encore une fois d'expliciter quels sont les enjeux dans les différents problèmes. Donc quand on a fait, il est éthique et acceptable de manipuler quelqu'un pour son propre bien, dans quel cas est-ce que oui et l'argument est sain, dans quel cas est-ce que oui l'argument n'est pas sain, etc. Et les personnes qui débattent, c'est des personnes du public. Vous pouvez aller voir sur notre page Facebook nos prochains événements. Encore une fois, tout ce que Chiasma fait, c'est gratuit, donc c'est pas un pitch.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi et bravo encore pour tout ton travail.
Merci à toi et bon courage pour le prochain épisode.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur Instagram à Questions de Fric. Un podcast de Brice Durand produit par Agence Zéro. À la réalisation, Julie Bérissi, avec les voix de Cédric Dumont, Hélène Martinelli et Cécile Terrangle. Musique par Pierre D'Angelo. Visuel par Vigny Adam. À la communication, Anne-Claire Lecas.